Alors, nous allons commencer par Nausicaa de la vallée du vent de Hayao Miyazaki. Question, qui a déjà vu le film? Bon, est-ce que vous pensez qu'il a vieilli? Je vous pose la question. Oui, non? En fait, si je vous pose cette question, c'est parce que le film, c'est un film qui est en animation traditionnelle, avec, et on y viendra tout à l'heure, des mouvements qui peuvent sembler très simples à vos élèves, mais c'est à la fois lié à la technique de 1984. On n'avait pas encore les images, je dirais, de synthèse, enfin pas de synthèse, mais l'animation 3D, ce qu'on appelle l'animation 3D. Et d'autre part, c'était un choix de Miyazaki, parce que à la base, Nausicaa est un manga, et vous savez que le manga, avant de passer au cinéma, était déjà passé par le biais de la télévision, mais c'était une animation qui était volontairement simpliste, simplifiée par des mesures d'économie. Miyazaki, lui, voulait une animation beaucoup plus fine et beaucoup plus riche, mais il était tenu en 1984 par les éléments techniques dont il disposait. Sauf que, si vous voulez, si vos élèves sont gênés, il faut leur faire comprendre que ce qui compte, ce n'est pas la technique ici, encore qu'elle soit beaucoup plus élaborée qu'il n'y paraît, mais ce qui compte, c'est comment dire, la suspension de jugement, c'est-à-dire le fait qu'ils doivent accepter d'entrer dans un univers avec, je dirais, la nécessité pour eux de se déporter complètement de ce dont ils ont l'habitude. Et à partir de là, vous verrez, le film fonctionne très bien et il est même très, très complexe parce que Nausicaa peut être lu à un niveau très simple et il peut être lu aussi à un niveau presque philosophique. C'est ça qui fait la richesse du film. On y viendra. Alors, deuxième élément, Nausicaa de la vallée du vent. Problème, faut-il des majuscules à vallée et à vent? Logiquement, il ne faudrait de majuscules qu'à vent, si tant est qu'on puisse prendre le vent pour un nom propre. J'ai regardé d'un site à l'autre, la graphie oscille sans arrêt. J'ai choisi celle qui était la plus répandue. Voilà. Donc, c'est un choix par défaut. Alors, ensuite, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est le problème de Miyazaki. Alors, Miyazaki, c'est quelqu'un qui est totalement écologiste et qui est préoccupé par l'effondrement qui menace notre civilisation. J'y reviendrai tout à l'heure, mais pour que vous entriez tout de suite dans la problématique du film, je vous donne deux éléments. Premier élément, Miyazaki est né en 1941. Et s'il n'a pas été directement sous les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, pourquoi sinon il serait certainement mort, il a eu sa maison bombardée pendant la Première Guerre mondiale et il garde de la guerre un souvenir épouvantable, même s'il y a une fascination pour les armes dans ses films, et il est profondément pacifiste. Deuxième élément, le Japon, vous le savez, c'est un pays qui est toujours en proie au typhon et au cataclysme, bien avant la catastrophe de Fukushima. Et ce qui fait que Miyazaki est profondément, je dirais, ancré dans l'idée que nous faisons partie de la nature, que nous sommes dans la nature avec toutes les menaces que celle-ci peut faire peser sur lui, mais aussi, sur elle, pardon, mais aussi toutes les menaces que nous pouvons faire peser sur elle. En d'autres termes, Miyazaki est un écologiste, mais ce n'est pas un écologiste simpliste. Dans la mesure où il dirait finalement l'idéal, c'est que l'espèce humaine disparaisse et que la nature vive sans nous. Lui, au contraire, ce qu'il veut montrer, c'est que nous faisons partie de la nature et que par voie de conséquence, nous devons trouver notre place dans la nature en la comprenant. C'est exactement ce que fait Nausicaa et c'est en cela qu'elle est une héroïne de l'écologie, Nausicaa. Vous voyez, ça, ce sont les deux points d'appui sur lesquels je veux vraiment insister. Avez-vous des questions? Tout va bien? Oui. Alors, le synopsis. 1000 ans après ce que la légende nomme les 7 jours de feu, la Terre, zébrée de zones désertiques, ah, j'ai une faute, s'est doucement convertie. J'espère que vous avez corrigé la faute d'orthographe. Hein, excusez-moi, j'ai cherché tout à l'heure, je ne l'ai pas retrouvé. Maintenant, je crève les yeux. Vous la voyez convertie hein, voilà, en foucale, sorte de forêt fantastique, expulsant des gaz toxiques et infestée d'insectes venimeux. Au cœur de cet univers menaçant, un confetti de paradis, la vallée du vent, abritant grâce à son vent marin purificateur, un petit royaume agricole et politiquement indépendant. On y respire frais et joyeux, aux côtés du roi Jill. Jill s'écrit de plusieurs manières. Hein. Vous pouvez l'écrire aussi avec deux L sans H. Et de sa fille Nausicaa. Une seule question demeure. Pourquoi le Fokai gagne-t-il tous les ans du terrain? Et ça, c'est le synopsis que j'ai trouvé sur le site de l'Académie de Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez d'ailleurs le document complet dans votre sous-dossier. Hein. Donc, ce problème de Nausicaa, c'est le point de départ, cette héroïne qui va devoir lutter contre la Fokai et en même temps contre la folie des hommes qui ne pensent qu'à se faire la guerre, nous amène d'abord à nous interroger sur Miyazaki. Alors, Miyazaki, quelques repères. Il est né à Tokyo en 1941, comme je vous disais tout à l'heure. Études politiques et économiques, et début à la Toei Animation. La Toei, c'est un des grands studios de japonais créés après la guerre. Enfin. Ensuite, il a travaillé dans différentes compagnies d'animation. Il a même, fait un séjour aux États-Unis, et il espérait d'ailleurs faire carrière aux États-Unis. Il en a été très déçu. Il a, au fil des années, tenu beaucoup de postes dans l'animation. Ça, c'est très important, parce qu'il maîtrise finalement toute la technique de A jusqu'à Z. Il y a d'abord la construction scénique, ensuite l'animation clé, le layout, le scénario, la conception graphique et la mise en scène. Alors, tout parle de soi, mais est-ce que le layout, vous savez ce que c'est? Bon. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est un storyboard? Bon. Alors, un storyboard, si vous voulez, c'est le fait qu'avant de tourner un film, que ce soit un film en animation ou un film en image dite réelle, vous dessinez tout le film ou les scènes qui vous semblent les plus difficiles à tourner. Vous les dessinez pour vous en faire mentalement une représentation, une sorte de dessin animé rudimentaire. Il y a des réalisateurs qui dessinent tous leurs films. Il y en a d'autres qui improvisent. Ce qui est sûr, c'est que plus le film est complexe, plus il a un gros budget, plus il nécessite des storyboards pour qu'on gagne du temps et qu'on ne commette pas d'erreurs. Le storyboard, c'est donc le résumé du film dessiné, mais après le storyboard, en animation, on crée le layout. Le layout, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'on va détacher chacun des éléments du storyboard, personnages, éléments de décor importants, et à partir de cet extrait, cette façon d'extraire les éléments, on va prendre chacun d'entre eux et on va les affiner, on va les concevoir en détail, que ce soit au niveau des formes, mais aussi au niveau des couleurs, voire au niveau des éclairages qu'on va porter sur eux. Et ce sont ces documents que l'on va transmettre ensuite aux animateurs, parce qu'ils vont être plusieurs centaines à travailler sur le film, et il faut que d'un animateur à l'autre, il y ait une forme de cohérence. Alors certains animateurs vont être chargés de tel élément, d'autres de tel autre, mais ensuite il va falloir mettre le tout ensemble pour avoir une forme de cohérence. Et le layout est très très intéressant, et je dirais même indispensable pour créer cette cohérence. Donc si vous voulez, c'est une étape intermédiaire entre le storyboard et l'animation définitive. Est-ce que tout va bien? Voilà. Donc vous comprenez que Miyazaki, c'est avant tout un très grand dessinateur, et à partir de là, il va créer son univers et il va donner ses instructions aux animateurs qui travaillent pour lui. Le studio Ghibli va comprendre quand même de 350 à 400 personnes. C'est beaucoup selon vous ou pas? Mais c'est énorme pour le Japon, c'est pas grand chose pour Disney. Parce que là où 300 ou 400 personnes travaillent pour un film de Miyazaki, sur un Walt Disney, vous en avez 2000. Voilà. Donc, son premier film d'animation long métrage, ça va être Le Château de Cagliostro, mais auparavant, il aura fait beaucoup de films plus courts, en particulier pour la télévision, voire des séries, avec un ami qui s'appelle Isao Takahata. Et avec Isao Takahata, il va créer en 1985 le studio Ghibli, avec derrière eux un personnage dont on parlera beaucoup moins, mais qui est peut-être la cheville ouvrière, qui s'appelle Suzuki, et qui au départ était un éditeur de manga, et c'est Suzuki qui va pousser Miyazaki à entrer dans l'animation. Alors ce qui est intéressant, si vous regardez bien, c'est que la fondation des studios, elle intervient après Nausicaa, la vallée du vent. ça n'est pas un film Ghibli. Et pourtant, on l'intègre complètement parce que, en fait, c'est l'acte fondateur de ces studios. Vous voyez ? Ça va ? Pas de questions toujours ? Alors, autre élément, ce qui est intéressant, c'est que Nausicaa, avant d'être un film, est un manga, c'est-à-dire une bande dessinée. Je vous en ai apporté un exemplaire, vous allez voir. Vous commencez par la fin, c'est-à-dire par la dernière page, et vous lisez la dernière page de droite à gauche. Il faut, alors vos élèves ont l'habitude, vous je pense aussi, parce que vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais c'est un sens de lecture particulier, et parfois même, les dessins de Miyazaki sont tellement complexes qu'il faut lire les cases, non pas seulement de droite à gauche, mais parfois aussi en cercle. Vous voyez ? Alors, il y a eu 7 volumes de Nausicaa, c'est-à-dire que Miyazaki a commencé à publier Nausicaa avant le film, et il a continué à publier les mangas après le film jusqu'en 1994. Donc, l'univers du manga, je parle de la bande dessinée, est beaucoup plus complexe que l'univers du film. En particulier, dans le manga, il y a toute une peuplade qui est complètement éliminée du film et qui joue un rôle très important dans la bande dessinée. Alors, je vous fais passer le numéro 1, qui a été publié en 2007 en France, puis republié en 2009 avec une version plus soignée, c'est la version 2009, mais vous en avez 7 volumes. C'est très prenant, c'est très très beau, et vous verrez que les détails sont tellement abondants qu'il faut se fixer sur chacune des images pour en percer tout le secret. Et autrement, il y a certaines images qui vous semblent, si vous regardez très rapidement, qui vous semblent absconses complètement. Donc c'est un gros, gros travail. Et il faut savoir que Miyazaki n'y prenait aucun plaisir. C'est un pinceau pour lui. Il se sent obligé de le faire entre deux films parce qu'il passe son temps à travailler. Mais il avoue sa souffrance, vraiment sa souffrance. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que quand il en parle dans un autre ouvrage que je vous conseille, qui est sorti en 2024, c'est Là où le vent revient. C'est une série d'interviews qu'il a données dans les années 90, puis dans les années 2000. Et paradoxalement, alors que le sous-titre est « De Nausicaa, de la vallée du vent au voyage de Chihiro », donc c'est un premier volume qui contient des entretiens donc, sur une partie du travail de Miyazaki, il faut aller à la deuxième moitié de l'ouvrage pour arriver à Nausicaa. C'est-à-dire qu'il faut commencer à la page 197 à peu près pour... entrer dans Nausicaa, c'est curieux, hein? Et vous allez voir que la pensée de Miyazaki est une pensée totalement asiatique, en ce sens qu'il y a beaucoup de choses qu'il élude en particulier, il ne veut pas intellectualiser à l'occidental comme nous le faisons nous. Donc il y a des questions d'ordre raisonné et logique qu'on lui pose, et on attendrait des réponses à l'occidental, et nous, il nous donne des réponses qui sont à la fois très occidentales, mais en même temps très, entre guillemets, spirituelles. Alors, ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que quand on voit un film japonais, que ce soit un film d'animation ou un film, je dirais, traditionnel, on est toujours un peu embarrassé, parce qu'il y a énormément de choses que nous comprenons, puisque l'être humain est partout pareil, mais en même temps, il y a des choses qui nous échappent, on y viendra tout à l'heure. Pourquoi elle nous échappe ? Et tout simplement parce que nous sommes dans une civilisation, dans une forme de pensée différente, et surtout parce que le Japon est tiraillé finalement entre deux cultures. Il y a la culture occidentale qui s'est imposée au Japon en 1868, quand les Américains ont fait le blocus au Japon et qu'ils ont obligé le Japon à ouvrir ses frontières au commerce. Et à partir de là, le Japon s'est ouvert à la littérature occidentale. Le Japon s'est fortement intéressé aux écrivains comme Zola, comme les écrivains naturalistes, les écrivains du 19e siècle. Le cinéma ayant été inventé en Occident, le cinéma japonais est fortement imprégné du cinéma occidental, que ce soit le cinéma français ou le cinéma américain. C'est assez amusant quand vous regardez les films d'Ozu des années 50. Après la guerre, tout d'un coup, le cinéma occidental revient au Japon. Et vous avez des héros qui disent « Ah oui, moi je vais voir un film, j'ai vu Les Enfants du Paradis. » Un autre qui dit à Jean Marais « Qu'est-ce qu'il est beau !» Vous voyez ? C'est surprenant quand même. Donc il y a toute une part de la culture occidentale qu'on trouve au Japon, mais il y a aussi une culture qui est fortement imprégnée de plusieurs religions et spiritualités qui imprègnent la sensibilité japonaise. Vous avez le christianisme, pensez à Silence, le film de Martin Scorsese qui est magnifique, qui nous montre un petit peu la façon dont le christianisme s'est plus ou moins implanté au Japon. Vous avez une grande part de bouddhisme, mais vous avez aussi une part de shintoïsme, dont on parlera tout à l'heure à propos de Nausicaa. Le shintoïsme étant une forme d'animisme dans lequel la nature tient une place très importante, mais aussi une impression, si vous voulez, qu'on retrouve dans les films d'Ozu, qu'on appelle le mono no aware. Le mono no aware, c'est une impression que rien ne reste jamais stable et que par voie de conséquence, il faut accepter, nous humains, d'être pris dans ce flux de la nature qui est continu. Et à partir du moment où rien n'est constant, nous devons accepter cela et avoir une forme de sérénité face à ce temps qui passe. Accepter d'être pris dans ce flux continu. Et c'est la raison pour laquelle les films d'Ozu en particulier sont souvent d'une extrême tristesse et en même temps d'une extrême sérénité, puisque les personnages, à la fin des films, voyez par exemple le voyage à Tokyo, se trouvent pris dans ce flux et acceptent d'y être emmenés en regardant tranquillement la nature et le temps s'écouler. Vous voyez, ça c'est tout à fait différent de nous. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, quand Roland Barthes a écrit un livre sur le Japon, il a écrit ce qu'il appelle l'Empire des signes, c'est-à-dire des chapitres qui détaillent la vie japonaise et dans lesquels il nous dit, ben voilà, je vois ça, c'est un signe, c'est-à-dire que ça veut dire quelque chose, mais moi, Européen, Français, je ne sais pas ce que ça veut dire et j'accepte de ne pas savoir ce que ça veut dire. Il y a un autre écrivain qui s'appelle Noël Birch, qui a étudié le cinéma japonais et qui a dit, qui a mis comme titre à son livre « Pour un observateur lointain ». En d'autres termes, j'observe le cinéma japonais, je le décrypte, je le comprends, mais en tant qu'observateur lointain, c'est-à-dire que je sais que je vais mettre dessus des grilles de décodage propres à ma civilisation, sans pour autant prétendre comprendre tout ce qui est dans ces films qui ne sont pas de ma civilisation. Vous voyez ? Alors pourquoi je vous dis tout ça ? C'est parce que dans les films de Miyazaki, vous allez avoir énormément de choses totalement compréhensibles, mais il va y avoir des points, ici ou là, qui vont échapper à vos élèves et qui vont vous échapper à vous, comme ils m'échappent à moi. Vous voyez ? Il faut accepter cela, et c'est intéressant parce que ça relativise aussi la volonté de tout un chacun de se croire le centre du monde. Voilà. Tout va bien ? Bon. Alors, regardez maintenant ce que signifie Ghibli, et on passe à un petit extrait. Le mot Ghibli a une signification spéciale en italien. Il fait référence à un vent chaud du désert qui souffle en Libye, le sirocco. C'est un mot d'origine arabe libyenne. Il est également utilisé pour désigner un type d'avion de reconnaissance italien de la Seconde Guerre mondiale. Cette combinaison de sens évoque à la fois la douce brise et la puissance, reflétant, cf. La diversité des thèmes et des émotions présents dans les films. Ça représente le vent chaud du désert, l'avion de reconnaissance, je vous rappelle, le titre du manga et du film, c'est Nausicaa de la vallée du vent. Et l'élément air est très important dans les films de Miyazaki parce qu'il est symbole de liberté. Miyazaki aimait énormément l'aviation. Je vous signale que les parents de Miyazaki avaient une usine de fabrication de pièces d'avion pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Miyazaki va avoir toujours cette fascination pour l'aviation, pour l'air, en même temps qu'il va se sentir coupable que sa famille ait participé à l'effort de guerre. Voilà. Je voudrais revenir sur deux ou trois points. Le premier point, c'est quand même la fabrication des films de Miyazaki dans les années 80-90. C'est une animation qui repose sur une technique extrêmement traditionnelle et qui est l'animation image par image, avec, l'utilisation de ce qu'on appelle le celluloïd. Est-ce que on dessine les paysages, on met sur le celluloïd les personnages et on efface ce qu'on a dessiné sur le celluloïd, on remet le personnage et en lui faisant modifier légèrement son geste, et c'est comme ça que l'on avance. Hein. Je n'ai pas besoin d'y revenir, tout va bien. Or, si vous avez bien vu, vous pouvez faire ce travail-là avec vos élèves. Moi, quand j'étais en collège, il y a pas mal d'années, je leur avais fait faire ce qu'on appelle des flipbooks. Ça prenait l'année, hein. C'est-à-dire que sur une feuille, vous dessinez un personnage sur un décor. À la feuille suivante, vous reprenez le même décor, vous faites faire un tout petit geste, enfin, je dirais un tout petit détail, vous modifiez un tout petit détail sur la feuille suivante, et ainsi de suite, et vous créez un effet d'animation. Et on avait créé comme ça plusieurs, entre guillemets, dessins animés, comme on disait à l'époque, donc d'une vingtaine ou une trentaine de secondes. Après, on les avait filmés sur, en vidéo, on avait projeté cela et ça fonctionnait très bien. Alors, pourquoi je vous dis cela? Parce que vous allez me dire, mais c'est vieux. Mais il me semble que c'est important de faire passer les élèves à travers la main, de faire travailler les élèves avec la main. Parce que si on ne le fait pas, ils vont sortir une image très très belle avec leur palette graphique, et c'est très bien, mais ils auront peut-être perdu l'aspect artisanal du travail, vous voyez. Et donc je pense que si vous avez le temps, quitte à créer un club en dehors de vos cours, un club d'animation, les faire travailler à la fois sur la palette graphique et l'animation 3D, et à la fois les faire revenir au cinéma dit primitif dans l'animation, c'est très bien, parce que savoir dessiner soi-même, c'est pas mal non plus quand même. Hein. Voilà. Et donc, les premiers films de Miyazaki travaillent et fonctionnent de manière très artisanale. Ce n'est qu'avec Princesse Mononoke, donc en 97, qu'il va commencer à intégrer l'animation en 3D. Vous voyez ? Et Takahata va le faire bien avant lui, et Miyazaki va être assez réticent au début parce qu'il est attaché à cet aspect artisanal, même s'il va passer à l'animation 3D comme tout le monde, bien entendu. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que je vous disais tout à l'heure concernant l'écologie. Je n'y reviens pas, mais je pense que vous l'avez compris. Ouais. Alors, ces deux extraits, je ne sais pas si vous pouvez les montrer à vos élèves, en tout état de cause, le premier certainement, le deuxième peut-être un peu plus délicat, mais le premier, je pense qu'on peut le montrer. Hein. Ensuite, donc, je vous ai montré ici toutes les couvertures du manga. Il y en a donc 7. Et vous pouvez les trouver en général dans les médiathèques. Et ensuite, vous pouvez commenter avec vos élèves quelques images du manga, quitte à faire des photocopies. Et ce qui est intéressant, c'est que le manga est en noir et blanc, vous voyez. Et il se trouve que Miyazaki, en particulier dans le générique de début, nous montre ces personnages-ci, vous les voyez. Ce sont les guerriers de la désolation, c'est-à-dire que ce sont eux qui amènent la destruction quasi totale de l'humanité, en tout état de cause, la destruction de la technologie, puisque le monde de Nausicaa survit de manière très, je dirais, artisanale et rurale, et la technologie dont elle dispose, c'est une technologie qui est juste une survivance des 1000 ans antérieurs. Et cette survivance est souvent faite de briques et de brocs. On est un petit peu toute proportion gardée dans ce qu'on va voir dans les Mad Max, c'est-à-dire qu'on récupère de la vieille technologie et il faut préserver ce qui nous reste, si vous voulez. Bon. Donc, ces guerriers qui ont tout détruit, ce sont en fait des guerriers au nombre de 7. Alors, vous savez que 7, c'est le nombre parfait d'une manière générale, en symbolique, hein, mais aussi, ces guerriers représentent, à mon avis, les 4 guerriers de l'Apocalypse. Ceux qui amènent la désolation dans, je dirais, l'Apocalypse de Saint Jean. Vous voyez ? Donc, Miyazaki n'en parle pas, mais il est évident que vous pouvez faire un rapprochement dans vos cours sur différents textes qui parlent de l'Apocalypse. Surtout que maintenant, c'est un peu un genre littéraire très à la mode. Hein. Bon, le problème, c'est que ça risque de donner beaucoup de pessimisme à nos élèves. Voilà. Alors, pour créer cet univers, vous avez toute une équipe, et en particulier, vous avez un contributeur qui est Joe Hisaishi. C'est le compositeur qui a mis en musique tous les films de Miyazaki. Alors vous savez que ce compositeur est reconnu dans le monde entier à l'heure actuelle. Il donne des concerts un peu partout. Et sa contribution à l'univers de Miyazaki est une contribution, si vous écoutez bien la partition de Nausicaa, qui peut être à la fois extrêmement classique, comme on l'entendait dans les extraits que vous avez vus au début quand Nausicaa arrive de l'extérieur vers le monde qu'elle va explorer à l'intérieur. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, cette musique classique, fondée finalement sur des instruments à cordes, devient une musique électronique, c'est-à-dire que Hisaishi, comme tout grand musicien, est un grand expérimentateur de forme aussi, vous voyez. Et il faut savoir que Hisaishi n'a, je dirais, ne porte pas son vrai nom. Son vrai nom, en fait, est totalement différent. Je ne me hasarderai pas à le prononcer. Hisaishi, c'est en fait un surnom qu'il s'est donné lui-même en hommage à un musicien que vous connaissez peut-être, un musicien américain noir qui est Quincy Jones. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, Hisaishi, c'est un clin d'œil à Quincy Jones. Donc vous comprenez que Quincy Jones est un très très grand musicien. Il a non seulement découvert des talents, il a créé de la musique lui-même, il a fait des musiques de films, mais ce créateur qui est quand même plutôt orienté vers la soul, vers le jazz, etc., a influencé un japonais qui lui est plutôt orienté vers la musique classique ou une musique, je dirais, expérimentale. Vous voyez, il y a quand même un dialogue toujours entre les civilisations, avec, à côté de cela, le degré d'étrangeté dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, si vous êtes intéressé par la fabrique, vous avez l'art de Nausicaa de la vallée du vent, c'est-à-dire que c'est un ouvrage toujours aux éditions Glénat qui vous fait entrer dans la conception de tout l'univers de Nausicaa. Et il faut savoir qu'il existe un volume chez Glénat, aux éditions Glénat, par film de Miyazaki. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand un film de Miyazaki sort, vous avez un ouvrage qui est publié, qui est intitulé « L'art de Chihiro, l'art de Mononoke, etc. Voilà. » Sachez-le, ça peut être intéressant à emprunter, vous les avez souvent dans les médiathèques, ces ouvrages-là. Alors, donc, le studio Ghibli, on en a parlé tout à l'heure, c'est un studio, comme je vous disais, qui fonctionne avec 350 à 400 personnes. Et ce studio pose un gros problème, un problème de survie. En fait, Takahata est mort en 2018. Et d'ailleurs, les deux hommes, Miyazaki et Takahata, s'étaient quelque peu éloignés parce qu'ils avaient une façon de voir les choses tout à fait différente. Takahata était orienté plutôt vers le réalisme, confère le tombeau des Lucioles, alors que Miyazaki était plutôt orienté vers l'héroïque fantasy, vers l'imaginaire. Mais ce qui est sûr, c'est que le studio reposait sur le dos de ces deux hommes. Takahata est mort et Miyazaki avait trouvé un remplaçant qui s'appelait Kondo. Le problème, c'est que Kondo est mort très très jeune, brutalement. Et donc Miyazaki, qui a 84 ans maintenant, se trouve quand même un peu en porte-à-faux parce que plusieurs fois il a voulu prendre sa retraite. Plusieurs fois Suzuki, l'éditeur, lui a soumis un projet. Miyazaki n'a pas su dire non parce que c'est un fou de travail. Mais que va-t-il devenir du studio quand Miyazaki sera mort, voyez? Parce qu'il y a quelques films qui ont été produits par Ghibli qui ne sont pas ni de Takahata ni de Miyazaki, mais en fait, il y en a très très peu, et tout repose sur les dos du maître, le dos du maître maintenant. Donc il est tout à fait possible que Miyazaki, une fois disparu, entraîne avec sa disparition la disparition des studios de Ghibli. Voyez? Alors, perpétuer le studio Ghibli, il y a actuellement un musée Ghibli qui a été ouvert dans les années 2000 et il y a un parc d'attractions qui vient d'ouvrir à 2 heures de Tokyo, et ça pose un problème de conscience parce que Miyazaki a toujours lutté contre le capitalisme et l'exploitation à outrance des gens. Or, le parc d'attractions, il est totalement fondé sur du capitalisme. Sauf que d'un autre côté, on peut répondre que c'est un moyen de perpétuer l'esprit de Miyazaki. Enfin, on est toujours dans le même contraste entre les nécessités du marché et les volontés artistiques et écologiques, si vous voulez. Alors, ce qui me permet de vous signaler un ouvrage que je n'ai pas pu montrer à vos collègues la semaine dernière, parce que je ne savais pas qu'il existait. C'est le numéro d'octobre d'un journal qui s'appelle Le 1. Je ne sais pas si vous connaissez ce journal. Et il y a un numéro spécial donc sur Miyazaki et l'art de Ghibli, et en particulier un écho à une exposition qui est à la Maison du Japon à Paris, sur Iseo, sur Takahata. Et c'est très intéressant parce que, en particulier, vous avez ici toute l'histoire du studio, les moyens de production du studio, une mise au point sur ce parc dont je vous parlais, une explication du passage du storyboard au layout, et tout ceci en quelques, comment dire, en quelques pages. Et en plus, vous pourrez montrer à vos élèves. Vous voyez, c'est un journal un peu particulier. C'est des plats comme ça, et au fur et à mesure qu'on l'ouvre, il y a des pages et des pages. Vous avez la fiche de Kiki, la petite sorcière. Voilà. Donc, c'est un ouvrage qui est quand même assez intéressant. Et je vous le conseille parce qu'il entre dans la fabrication. Voilà. Et puisqu'on est dans les livres, je vous en montre deux autres. Vous avez le Hayao Miyazaki, cartographie d'un univers. Donc ce qui est intéressant, c'est que ici vous avez un répertoire de tous les thèmes et de tous les, comment dire, de toutes les entrées possibles dans un film de Miyazaki, en particulier une étude du passage, de la porte. Vous savez, il y a toujours un passage de d'ici vers l'au-delà chez Miyazaki. Tout ça, vous êtes très bien expliqué, que les images sont superbes. Merci, Stéline. Et puis un autre qui est Au pays des merveilles, qui est beaucoup plus général, qui nous fait entrer dans les thématiques et l'histoire de tous les films tirés des mangas ou de ce qu'on appelle le japanime. Vous voyez, donc n'hésitez pas à consulter ces ouvrages, ils sont onéreux tous les deux, mais vous les trouvez partout. Merci Céline. Voilà. Si j'avais voulu vous faire une bibliographie, j'en avais pour la matinée, parce que c'est un fonds de commerce. Il y a même un ouvrage qui est paru, tenez-vous bien, sur les collectionneurs des objets de Ghibli. Enfin, je veux dire, on arrive à une forme de, comment dire, de, je sais pas moi, de fétichisme. Hein. Je vous en montrerai quelques ouvrages qui me semblent pertinents. Venons-en à Nausicaa. C'est un personnage de l'Odyssée, vous savez, hein, Nausicaa ou Blanc. Sauf que chez Homère, il n'y a pas le, vous savez, le tréma. C'est Nausicaa, et pas Nausicaa. Bon. D'autre part, Nausicaa, qui est elle, c'est la fille du roi des Phéaciens. C'est elle qui va recueillir Ulysse quand celui-ci va être victime d'un naufrage et qui va lui apparaître complètement nu, parce qu'il aura été réduit à la plus extrême détresse. Et Nausicaa, alors qu'elle a ses servantes autour d'elle, va s'approcher d'Ulysse courageusement pour lui porter secours, alors que ses servantes se sont enfuies. Et Nausicaa au bras blanc, c'est l'idéal de la beauté. Alors vous savez, vous connaissez chez Homère ce qu'on appelle l'épithète de fonction et l'épithète de nature, vous connaissez cela. Donc au bras blanc, c'est l'épithète de nature, c'est-à-dire par définition, elle a les bras blancs, comprenez, elle est d'une beauté extraordinaire. Hein. Or, Nausicaa, c'est le personnage qui a apparemment, je dis bien apparemment, créé celui de Nausicaa dans le film de Miyazaki. Alors, vous pouvez trouver sur Internet l'édition de la BNF Gallica, dans laquelle vous avez une reproduction de dessins du 19e siècle, style, Art Nouveau bientôt, avec la traduction de Le Comte de Lille. Vous savez, Le Comte de Lille, c'est le poète parnassien, et on peut discuter de la qualité des traductions qui sont données d'Homère, parce qu'il est absolument impossible de traduire correctement Homère, puisqu'il est en poésie, en hexamètre dactylique, et par voie de conséquence, la traduction française, qui repose non pas sur une alternance de voyelles brèves, voyelles longues en grec, en France, on a plutôt un rythme qui est fondé sur la rime, hein, tout au moins dans la poésie classique. Donc, toute approche possible de la traduction d'Homère est délicate. Et par exemple, Victor Bérard, qui est celui qui a pignon sur rue, enfin, qui avait pignon sur rue au début du XXe siècle, il avait essayé de traduire Homère en vers blanc. Sauf que, quand on essayait de traduire précisément le texte à partir de la traduction de Bérard, c'était un peu délicat. Je vous avoue que je me suis pas mal arraché les cheveux déjà à l'époque, quand il y avait un passage délicat d'Homère, je devais prendre Bérard pour m'aider à traduire, il n'y avait aucune solution. Alors, une bonne traduction, c'est celle de Le Comte de Lisle, qui remonte au XIXe siècle, parce que Le Comte de Lisle est un poète à la base, vous voyez. Alors, regardez la façon dont Le Comte de Lisle nous présente les compliments que Ulysse adresse à Nausicaa. Aussitôt, Ulysse adressa à Nausicaa ce discours flatteur et adroit. Je te supplie, ô reine, que tu sois déesse ou mortelle. Si tu es déesse de celle qui habite le large Ouranos, Ouranos ici au sens de ciel, hein, bien sûr, tu me sembles Artémis, fille du grand Zeus, par la stature, la beauté et la grâce. Si tu es une des mortelles qui habite sur la terre, trois fois heureux ton père et ta mère vénérables, trois fois heureux tes frères. Sans doute leur âme est pleine de joie devant ta grâce quand ils te voient te mêler au cœur dansant. Mais plus heureux entre tous celui qui, te comblant pardon, de présents d'hyménée, c'est-à-dire de cadeaux de mariage, hein, te conduira dans sa demeure. Jamais, en effet, je n'ai vu de mes yeux un homme aussi beau, ni une femme aussi belle, et je suis saisi d'admiration. Une fois, à Délos, devant l'autel d'Apollon, je vis une jeune tige de palmier, et en voyant ce palmier, je restai longtemps stupéfait dans l'âme qu'un arbre aussi beau fût sorti de terre. Ainsi, je t'admire, ô femme, et je suis stupéfait, et je tremble de saisir tes genoux, car je suis en proie à une grande douleur. Alors, première remarque, on est loin de l'héroïne de Miyazaki. Deuxième remarque, c'est quand même curieux que Ulysse ose saisir les genoux d'une jeune femme qu'il ne connaît pas. Et faites ça maintenant, vous allez vous trouver tout de suite avec une dénonciation sur Internet. En fait, le grec gounatzomai, qui veut dire au sens propre « je serre les genoux », indique une position bien particulière, c'est le fait qu'on se mette à genoux devant quelqu'un et qu'on prenne les genoux de cette personne dans ses bras. C'est une position de suppliant qui demande de l'aide et qui demande asile. Voyez? Donc ce n'est pas du tout une provocation quelconque, c'est au contraire un acte d'humilité et de supplication. Et troisième élément qui va surprendre vos élèves, c'est le fait qu'on compare une jeune femme à une tige de palmier. Bon, et n'oubliez pas qu'on est à une époque où la nature prédomine et on fait référence dans les canons de la beauté à des éléments naturels. Donc c'est intéressant d'étudier ce texte avec vos élèves pour montrer tout l'écart culturel qu'il y a entre eux et je dirais, Homère. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'au-delà de cela, il y a les sentiments qui restent les mêmes, c'est-à-dire l'appréciation de la beauté et, je dirais, la demande d'aide. Et ça, c'est intemporel. Vous voyez? Alors, tout ceci nous amène à voir quelle est la Nausicaa de Miyazaki. Bien, il dit ceci, c'est très intéressant, ça, je l'ai trouvé dans la page de garde du manga. Nausicaa est un personnage de l'Odyssée. Pour ma part, depuis le moment où j'ai découvert son existence à la lecture d'un petit dictionnaire de la mythologie grecque dû à Bernard Esslin, je suis irrémédiablement tombé sous son charme. Par la suite, j'ai lu une adaptation romanesque de l'Odyssée d'Homère. Mais contrairement à mes attentes, je n'y ai pas trouvé en elle le rayonnement que laissait augurer l'ouvrage d'Esslin. C'est pourquoi, à mes yeux, Nausicaa est avant tout la jeune fille décrite par Esslin. Et d'ailleurs, Miyazaki ajoute que Esslin, dans son dictionnaire, réserve 3,5 pages à Nausicaa, alors qu'à côté de cela, il réserve une page à des divinités de toute première importance. Donc, en d'autres termes, le personnage de Nausicaa est certes inspiré d'Homère, mais en réalité par le biais de plusieurs filtres, puisque l'adaptation, c'est pas cela, et c'est un dictionnaire qui est totalement subjectif, qui sert d'inspiration à Miyazaki. La deuxième inspiration, qui est plus présente encore et qui est tout aussi étrange, c'est celle-ci. En découvrant Nausicaa, je me suis remémoré une héroïne japonaise rencontrée dans le Konjaku Monogatari, c'est-à-dire des histoires qui sont maintenant du passé. Cette jeune fille, issue d'une famille de l'aristocratie, oh, vous corrigerez la faute rencontrée, issue d'une famille de l'aristocratie et surnommée la princesse qui aimait les insectes, bien qu'en âge de se marier, continuait à parcourir les plaines en s'émerveillant des métamorphoses, des chenilles en papillons, et était considérée par ses pairs comme une excentrique. Alors Nausicaa, dans le film de Miyazaki, est en pleine communion avec les insectes. Il y a des insectes très angoissants qui sont les ogous, qui ressemblent à de gros scarabées, avec 14 yeux, lesquels les yeux sont bleus traditionnellement et rouges quand les personnages sont en colère. Et ce sont des monstres dont on voudrait se débarrasser. Et Nausicaa, elle, au contraire, essaie d'entrer en contact avec eux. Et même à la fin, tant pis pour ceux qui n'ont pas vu le film, la jeune fille qui aura sacrifié sa vie sera ressuscitée par les Omus, ces monstres, vous voyez. Et donc, cette princesse des insectes qui communique avec les insectes, c'est aussi une des sources, et peut-être même une source plus importante encore que Homer pour le personnage de Miyazaki. Alors regardez ça, une petite anecdote pour vos élèves, pour les amener à réfléchir encore sur les traditions. Contrairement aux autres jeunes filles de son âge, qui toutes se rasaient les sourcils et se noircissaient les dents, elle gardait ses dents blanches et ses sourcils noirs, et le livre met en avant l'étrangeté d'une telle situation. En d'autres termes, Nausicaa, qui ressemble à une occidentale traditionnelle, est scandaleuse dans la représentation de ces récits légendaires japonais. Vous voyez, toujours cette étrangeté d'une civilisation qui n'est pas la nôtre. Alors, qui est Nausicaa? Parce que le thème principal, je vous l'ai dit, c'est quand même la jeunesse. D'abord, elle est très jeune. D'autre part, elle est plus sage que tous les adultes. Vous voyez le petit personnage qu'elle a sur le dos. C'est un personnage créé par Miyazaki, c'est une mascotte. C'est un mélange d'écureuil et de renard. C'est un renard-écureuil. Sauf que quand la première fois que Nausicaa voit l'écureuil, on dit « Attention, il est dangereux ». Et effectivement, l'animal la mord profondément. Mais elle lui dit « Mais n'aie pas peur, je sais que tu as peur ». Et finalement, l'animal non seulement cesse de la mordre, mais en plus de cela, il la dèche pour cicatriser la blessure, laquelle cicatrise immédiatement, et il devient l'animal de compagnie de Nausicaa, comme Milou avec Tintin, si vous voulez. Donc, cette héroïne est plus sage que les adultes, et ceci nous amène à un thème qu'on voit toujours chez Miyazaki, qui est l'éloge de la jeunesse et de la naïveté au sens premier du terme, c'est-à-dire le fait que la jeunesse, elle est plus proche de la pureté initiale, de la pureté de la naissance. Et c'est cette pureté-là qui lui permet à cette jeunesse d'entrer en contact avec la nature. Sauf qu'il ne faut pas se leurrer. Cette jeunesse, elle va être confrontée à la violence externe et à la violence intérieure. Regardez Mononoke. C'est quand même assez étonnant. Mononoke, c'est une princesse qui vit avec les loups. Elle a le visage plein de sang. Pourquoi? Parce que la louve qui est derrière elle a été blessée et Mononoke a aspiré le sang de la blessure pour en extraire le poison. Mais vous comprenez qu'il y a une forme de sauvagerie en elle, avec en particulier le couteau qu'elle porte à la main. Et cette violence, c'est, je dirais, un point sur lequel Miyazaki insiste beaucoup, 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 à savoir que nous avons en nous une forme de violence. Et Nausicaa est une guerrière, elle est armée, elle sait se servir des armes, elle est redoutable, et ce dont elle doit absolument prendre conscience, c'est que cette violence doit être maîtrisée et qu'il faut lutter contre elle au point d'arriver à la non-violence. Et donc c'est aussi un point sur lequel vous pouvez amener vos élèves à réfléchir, c'est très important cela. Mais Miyazaki, lui, n'hésite pas à montrer d'ailleurs que entre l'être humain et l'animal, il y a non seulement une possibilité de contact, mais au-delà, il peut y avoir une forme d'animalité en nous. Regardez Ponyo, qui est un film un peu à part. Ponyo, c'est l'histoire de la petite sirène revue par Miyazaki, à savoir une histoire d'amitié entre un petit garçon et une petite poisson rouge qui va devenir humaine par amitié, comme la petite sirène, vous voyez. Et donc ce film mène très très loin Miyazaki d'ailleurs. Il y a dans ce dessin animé, Ponyo, une technique un peu, enfin pas une technique, mais une conception graphique différente, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de courbes. Or, comme je l'avais expliqué, je ne sais pas si je vous l'avais dit l'année dernière, la courbe, c'est le symbole de la douceur, de la féminité, du sein maternel. Et donc Miyazaki a voulu travailler la courbe dans ce dessin animé pour aborder le thème du lien homme-animal différemment. Voilà. Mais ça n'empêche pas que dans certains cas, l'être humain remonte jusqu'à l'animal. par choix ou indépendamment de sa volonté. Regardez Porco Rosso. Porco Rosso, c'est un aviateur, héros de la Première Guerre mondiale. Il a vu tellement d'horreur, de violence, etc., que malgré l'amour que lui porte une femme magnifique qui tient un palace, eh bien, il décide de rester un cochon. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut plus être un homme tellement l'humanité lui semble épouvantable. Alors le film est plein d'humour, il est très drôle, mais sur le fond, il n'est pas gay. Vous voyez ? De la même façon, la princesse Mononoke, elle reste à l'état sauvage. Il faut savoir que Mononoke, au départ, ça veut dire une malédiction. Cette petite qui vit à l'état sauvage, c'est parce qu'elle a subi une malédiction. Dans la traduction française, c'est pas présent. Mais en même temps, cet état sauvage nous fait comprendre que cette princesse, finalement, a beaucoup plus de valeur, peut-être, que l'être humain civilisé, entre guillemets. Voyez. Et puis, le cochon qui sommeille en nous, vous l'avez dans Chihiro, les parents de Chihiro, parce qu'ils se sont laissés à manger comme des cochons, sont devenus des cochons. En fait, ils n'ont fait que révéler leur penchant intérieur. Vous voyez. Donc, tout ceci nous amène à voir que Miyazaki est quelqu'un qui n'est pas béatement heureux en disant on va vivre dans une nature tranquille. Ce n'est pas le cas du tout. Parce que la nature, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Voici dans la princesse Mononoke, le prince, le dieu cerf que l'on va chercher à décapiter. Mais le dieu cerf, il peut paraître complètement insensible à la souffrance des animaux, des êtres humains. À un moment donné, deux des personnages fondamentaux du dessin animé, qui sont la louve que nous avons vue, et un sanglier qui représente les forces brutes de la nature, mais qui a une vertu positive, tous les deux sont à l'agonie, et bien le dieu cerf vient simplement recueillir leur dernier souffle, il ne vient pas les soigner ni les consoler, il recueille leur dernier souffle, et c'est tout. Vous voyez ? Donc il n'y a pas, je dirais, de vision béate de la nature. Elle n'est pas indifférente, elle n'est pas méchante, elle peut être très violente, mais elle est, c'est tout. Elle est. Donc, elle peut être aussi capable de déchaînement. Je vous montrerai un extrait de Ponyo sur la falaise. Et ce déchaînement, évidemment, nous montre que l'homme est bien, bien peu de choses dans la nature. Et en particulier, ça correspond souvent aux images que l'on a dans la civilisation japonaise, aux peintures que l'on a dans la civilisation japonaise et asiatique d'une manière générale. C'est-à-dire que l'être humain est toujours représenté comme faisant partie de la nature, alors que dans la perspective centrale linéaire héritée de la Renaissance, nous sommes plutôt au centre du tableau. Ce n'est pas le cas dans, je dirais, les peintures d'Oxai, par exemple. Donc, d'autre part, l'être humain peut se représenter, peut montrer toute sa monstruosité et développer la monstruosité de la nature. On a ça dans Chihiro, tandis que chez Totoro, on a au contraire un animal bien sympathique, les deux sont possibles. Donc, ce qu'on comprend Nausicaa, c'est que tout ce qui empoisonne la planète, enfin la Terre dans laquelle elle se meut, c'est en fait une façon pour la nature, non pas de tuer l'être humain, encore qu'elle puisse le tuer, mais c'est une façon pour la nature de dépolluer tous les sols que les humains ont pollués par leur guerre. Et en d'autres termes, la forêt de la désolation, qui avance petit à petit, qui émet des gaz qui nous empoisonnent, cette forêt, en réalité, elle ne fait que avancer pour essayer de nettoyer la nature. D'ailleurs, les arbres eux-mêmes, ils absorbent totalement ces gaz toxiques et ensuite ils se solidifient et ils tombent en poussière, stable, tout simplement parce que la pollution est telle qu'on ne peut pas s'en sortir autrement. Et cela, la petite Nausicaa l'a compris, alors que tous les autres êtres humains, y compris les plus sages, ne voient que la désolation qui progresse. Donc, en particulier, Nausicaa a compris que l'omu, l'insecte monstrueux, peut nous aider. Par exemple, en trouvant une mue, elle découpe au début du film le globe oculaire qui va lui permettre de créer des outils et des armes pour se défendre. En d'autres termes, elle comprend le fonctionnement non seulement de la nature, mais aussi de ces fameux insectes dont je parlais tout à l'heure. Mais son problème, c'est que c'est une guerrière à la base formée pour être guerrière et qu'elle doit apprendre justement qu'il faut y renoncer parce qu'elle a tout souvent la tentation de la violence. Et elle va parvenir à se débarrasser de cela parce que la violence et la mort et la guerre, ça se trouve dans beaucoup d'œuvres de Miyazaki. J'en reviens encore à Mononoke. Regardez le sanglier, la maîtresse des sangliers qui est en train de mourir. Dans le film, elle meurt dans une geyser de sang, littéralement. Et c'est pas un film à montrer à tout le monde, hein, pas aux petits-enfants, hein, pas du tout. Hein. Miyazaki ne cache rien de la dureté du monde, si vous voulez. Et en même temps, il y a une fascination pour les avions de guerre. Je vous rappelle encore une fois que sa famille fabriquait des pièces pour les chasseurs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a des mélanges d'avions existants, d'avions imaginaires, de technologies différentes. Regardez dans Porco Rosso. Et ici, je pense qu'on a un souvenir directement de cet avion de reconnaissance dont je vous parlais tout à l'heure et qui a donné naissance au studio Ghibli. Dans Le Vent se lève, on a beaucoup d'éléments autobiographiques avec la conception des avions. Et on trouve cela, évidemment, dans le plaisir de Nausicaa de dominer l'élément air. En fait, elle fait partie de cet élément. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que très souvent, la musique qui l'accompagne est une musique à la fois contemplative et apaisée. Et il y a un gros travail sur le son, imitant la fluidité de son aile volante, si vous voulez. Mais en même temps, elle est l'élue. Alors, l'élue, ça veut dire que, d'une part, elle doit renoncer à la guerre, à la violence. D'autre part, elle déploie autour d'elle l'amour et le partage, puisque quand elle va partir en mission, vous avez des petits-enfants qui viennent lui donner des graines très très rares et difficiles à obtenir pour l'aider dans son voyage. Donc c'est elle qui reçoit le cadeau. Il y a donc un échange à ce moment-là. Et d'une manière générale, elle va pouvoir lutter contre la colère des Omus en se sacrifiant si c'est nécessaire. Donc tout ceci nous amène à ce que je vous disais tout à l'heure, le shintoïsme. Le shintoïsme est une source d'inspiration majeure pour Miyazaki. C'est une religion très très importante au Japon. Il n'y a pas de notion de bien et de mal, contrairement à la notion de péché qu'on a dans la religion judéo-chrétienne, si vous voulez. C'est un mélange d'animisme et de polythéisme. En d'autres termes, il y a de la vie de l'âme dans tous les objets qui nous entourent, dans tous les animaux qui nous entourent, dans tous les éléments naturels. Et particulièrement dans le shintoïsme, vous pouvez avoir des dieux ou des kami qui sont ni bons ni mauvais, peuvent se montrer bienveillants. Simplement, ils ont en eux, naturellement, un esprit de violence. Et c'est ce qu'on voit dans les films de Miyazaki. Ce dernier peut se manifester à la suite d'une malédiction qu'on appelle Tatari. Alors, elles sont liées à une faute, un tsumi, mais une faute pas au sens où nous l'entendons, nous, en termes de péché. Une faute, c'est plutôt au sens où les Grecs du temps d'Homère l'entendaient, c'est-à-dire le fait qu'on a raté son coup, on a raté sa cible. Vous voyez, quand un personnage dans l'Antiquité grecque dit « j'ai commis une faute », il emploie le verbe « amartanein », qui est un verbe qui est une métaphore. C'est comme s'il disait « j'ai raté ma cible en décochant ma flèche ». Je suis tombé à côté. Vous voyez, j'étais à côté de la plaque, comme on dirait nous. Donc la faute, ici, n'est pas forcément liée à un péché, mais c'est une erreur, tout simplement. Et cette faute, évidemment, amène la colère de la nature, et en particulier, les Omus, eux, sont sensibles à cette colère. Bon, donc ce qu'on appelle les péchés, nous, maintenant, au sens judéo-chrétien, c'est les mauvaises actions des hommes entre eux, notamment la guerre, et leurs attaques contre les insectes, en d'autres termes, contre la nature. Et c'est ça la faute des personnages tous de Nausicaa, sauf qu'il y a la peuplade de Nausicaa qui simplement essaie de vivre en autarcie et se protéger et de la mer de décomposition et de la violence externe, et vous avez à côté de cela les Tolmèques qui, eux, continuent leur guerre et essaient de ressusciter les guerriers qui ont déjà causé la décomposition du monde mille ans auparavant. Voyez, donc il y a toujours cette tentation de la guerre chez Miyazaki. Donc, Les homus, et là c'est les insectes dont je parlais tout à l'heure, d'où viennent-ils? Ben, ça vient peut-être de Vorm le vert et Om le mantra, peut-être. Donc c'est une entité majestueuse, mystérieuse, sensible. Il ressent les émotions humaines et il communique avec des sortes de fils, de filaments jaunes. Donc ils sont les protecteurs de la foucaille, la forêt dangereuse et toxique. Et d'une façon générale, on aurait tendance à vouloir les tuer. Or, au début, Nausicaa, que fait-elle quand elle en voit un? Elle n'essaie pas de le tuer, elle essaie de le détourner sa colère, de le détourner dans son avancée pour le ramener vers la forêt. En d'autres termes, Nausicaa a compris que les homus ne sont pas méchants, ils protègent la forêt. Pourquoi ils protègent la forêt? Parce que cette forêt, qui semble dangereuse comme eux-mêmes sont dangereux, en fait, elle est en train de nettoyer la nature de sa pollution. Et ça, il faut le comprendre. Vous voyez? Ouais. Donc, le respite de violence peut se réveiller sous l'effet de la haine, et à ce moment-là, ses gardiens peuvent briser la malédiction malgré tout, et ils ressuscitent la princesse à la fin. Si bien que la prophétie qui a été faite, c'est que Nausicaa, à la fin du film, devient véritablement un messie, c'est-à-dire un Christ ressuscité qui va apporter la paix autour d'elle. Bon. Et pour cela, elle doit refuser la peur. Elle doit comprendre ce qu'est l'arbre protecteur. Elle doit comprendre ce qu'est la mer de décomposition, qui est en fait un élément de purification pour la pollution. Donc, tout ceci nous amène à voir que la pensée de Miyazaki est beaucoup, beaucoup plus complexe qu'il y paraît. La nature n'est ni bonne ni mauvaise. Elle peut être destructrice. Mais l'homme fait partie de la nature de ses cycles. Donc, il faut comprendre que Nausicaa est porteuse d'espoir, qu'elle lutte contre sa violence innée, que si l'humanité semble vouée à s'entretuer, eh bien à ce moment-là, Nausicaa peut pallier cela. Et il y a évidemment chez Miyazaki une fascination teintée de culpabilité pour les arbres et les avions, mais il y a aussi cette volonté de traduire la légèreté de Nausicaa quand elle se propulse dans les airs. Donc, est-ce que l'œuvre de Miyazaki est pessimiste? Votre vision marxiste du monde a évolué et se dirige toujours plus vers l'affirmation de valeurs positives. En effet, tout en m'efforçant de trouver des choses à faire valoir, je ressentais au quotidien un désespoir de plus en plus profond. Mais si je me laissais emporter par ce désespoir, mes travaux seraient voués à sombrer dans la métadaube. C'est pourquoi le défi consistait pour moi à trouver comment m'imposer comme contrainte de ne surtout pas faire un film basé sur un tel désespoir, tout en maintenant un certain réalisme. Aujourd'hui, si l'on y réfléchit en termes d'enjeux psychologiques, il est bien plus facile de faire œuvre sur la base d'un tel désespoir. Il est bien plus simple de décrire à quel point l'humanité est stupide et incorrigible au-delà du secourable. En fait, ce qu'il pense vraiment, c'est ce qui est en bas. L'humanité est stupide au-delà du secourable. Mais il dit, nous ne devons pas donner une telle vision aux enfants, sinon on fait une métadaube. Voilà. Donc en d'autres termes, ce qu'il dit, c'est que la littérature et le cinéma de l'apocalypse, ça peut donner du spectacle, mais ce n'est pas une valeur à transmettre. Et je crois que ça, c'est l'idée fondamentale que vous avez à retenir quand vous analyserez ce film pour vos élèves. Vous voyez, je pense que c'est fondamental. On va voir des extraits maintenant, parce que j'ai beaucoup parlé, mais ce qui est important, c'est de faire comprendre aux élèves qu'ils doivent eux-mêmes comprendre le monde qui les entoure pour mieux s'y intégrer et pour mieux éventuellement modifier ce qui n'y va pas. Sinon, autant se suicider tout de suite. Hein. Alors, donc, la liberté et la communion avec l'élément R, l'image finale pleine d'espoir, ça me semble fondamental, c'est une capture d'écran que je vous ai faite. Vous avez le masque de Nausicaa qu'elle a déposé, parce qu'elle n'a plus besoin de ce masque pour respirer un air qui était pollué. Et vous avez un brin d'herbe, qui est évidemment la petite tige de palmier, et qui montre évidemment la renaissance d'une nature purifiée, si vous voulez. C'est important. Donc ça, c'est un travail que vous pouvez faire avec vos élèves en conclusion du film, après la projection, leur demander d'analyser cette image finale. Comme ça, vous faites aussi une analyse image fixe. Bon, donc je vous donne un peu de lecture. Comme ça, je n'ai pas besoin de revenir sur le... Alors, cet ouvrage-là, je ne voulais pas apporter, je n'ai pas pensé. le cinéma d'animation de 2017. Il vous donne toute l'histoire du cinéma d'animation, les différentes techniques, les différents studios, les différents moyens de production. C'est un ouvrage totalisant, mais sur le cinéma d'animation en général. Puis, vous avez les deux livres sur Miyazaki dont je vous ai parlé tout à l'heure, plus, je dirais, deux ouvrages que je ne vous ai pas apportés parce que j'étais suffisamment chargé quand même. L'œuvre aérienne de Miyazaki, donc pour vous signaler combien le thème du vent est important chez Miyazaki. D'ailleurs, vous avez vu l'affiche de Kiki, la petite sorcière, que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, vous avez un ouvrage, le magicien d'animation japonaise. C'est une bande dessinée, vous savez, ça se fait de plus en plus. On fait de plus en plus des romans graphiques ou des bandes dessinées sur de grands réalisateurs. Il y a Spielberg, il y a Coppola, il y a Sergio Leone qui sont déjà sortis. Et vous avez Miyazaki. Et puis, vous avez l'ouvrage que je viens de vous montrer, Les Entretiens, là où le vent revient. Et enfin, vos pistes pédagogiques. Alors, confection d'un film d'animation traditionnelle. Quel genre avons-nous ici? Est-ce que c'est de la science-fiction? Qu'est-ce que c'est que l'héroïque fantasy? Donc, sous-genre, l'héroïque fantasy est un sous-genre de la science-fiction. Comparaison entre une séquence et les planches du manga, on en a parlé tout à l'heure. Le schéma actentiel des personnages secondaires. Alors les Tolmecs, l'humanité guerrière, les personnages de Nausicaa. Alors là, c'est intéressant pour moi, parce que ça va nous permettre de voir ce que c'est qu'une héroïne, au sens pur du terme, tel qu'on l'imagine, pratiquement la demi-déesse, hein, puisque c'est le sens premier d'héroïne. Courage, habileté, intuition, valeurs humaines, maîtrise de ses pulsions de violence, maîtrise de soi, aptitude à gouverner, sagesse, autorité naturelle, connexion avec la nature, particulièrement avec les hommes nus. Mais si, bon, quant au monde naturel, les omus, les insectes, la forêt, le désert, la question écologique, la colère des omus, le rôle du vent dans le film, la mue de l'omu, la formule, la forêt initiatique, donc vous pouvez faire évidemment des recherches sur les problèmes liés à l'écologie et la manière dont la forêt surtout est représentée au cinéma en tant qu'élément fondamental de l'écologie. Il y avait un film qui était au programme il y a quelques temps, qui était Le Garçon et le Monde, je ne sais pas si tu te souviens, Céline, et on avait un gros travail là-dessus aussi. Et évidemment, moi, ce que je vous conseille, c'est de comparer avec d'autres films traitant du même problème, qui est Le Voyage sur la Lune, Blanche-Neige et les Sept Nains, l'Avatar, c'est-à-dire la liaison entre l'héroïne et la nature. Et je suis persuadé, moi, que chez Miyazaki, il y a un souvenir du Voyage sur la Lune, de Méliès, mais que chez, James Cameron, il y a certainement un écho à Nausicaa. La conception de la prince, de la planète Pandora, c'est, à mon avis, fortement influencé par Miyazaki, je pense, personnellement. Hein. Voilà. Et donc, quel sens donner au film? Je pense qu'il faut que vous ameniez vos élèves à réfléchir sur l'écologie et les valeurs morales et éducatives du film. Quelle valeur le film peut transmettre, et ça serait un pont à jeter avec une dame et du poulet. Donc, on va voir tout à l'heure. Donc, il y a tout un univers chez Miyazaki, et je pense que maintenant on va pouvoir prendre. On va travailler jusqu'à 11h, on va prendre un extrait au début, et on va voir ce qu'on peut en tirer du point de vue de l'analyse. Alors, juste pour ne pas perdre de temps, dans le manga que je vous ai fait passer, au début, on a Nausicaa qui arrive carrément dans un endroit où il y a une infestation, je dirais, de pollution. Alors que dans le film, on voit au départ apparaître le mentor de Nausicaa, alors que dans le manga, le mentor apparaît après. Donc il y a une inversion, des deux structures narratives. Il faudra se poser la question de savoir pourquoi. D'accord ? Voilà. Donc, je vous montre le début. On va avoir première séquence, très générique, première séquence. L'écran au milieu d'une tempête de sable, en quelque sorte. On pense un peu au début de Laurence d'Arabie. Sauf que là, on est dans une tempête, alors que Laurence d'Arabie arrive, au contraire, sur un fond de soleil levant. Deuxième élément, un gros plan, ou plutôt un plan d'insert, sur des pattes d'un animal un peu bizarre. Vous avez vu, c'est un mélange de corbeau et de cheval que vous avez là. Et ensuite, un troisième plan qui nous montre le maître Yupa, qui est le mentor de Nausicaa, on ne sait pas encore qui il est, avec un masque, et sa, une, sa, la monture qui le suit a aussi un masque. Donc l'être humain et l'animal se ressemblent étrangement, et donc on se pose des questions pour savoir où l'on est. Et enfin seulement, on comprend qu'on est dans un monde post-apocalyptique, puisqu'on voit une tête de mort, dont on ne sait pas très bien si elle correspond à un être humain ou pas, et vous avez le symbole éminemment tragique de la poupée qui tombe en poussière. Donc tout est dit à ce moment-là, avec deux, je dirais, phrases que formule Maître Yupa, encore un village mort, deux, fuyons, la forêt est en train de nous rattraper. Alors on va dire que ça semble un peu naïf, parce qu'on comprend bien que c'est une indication qu'on donne au spectateur. Le personnage n'a pas besoin de se faire cette réflexion à lui-même, puisqu'il a tout compris. Mais en fait, si vous regardez le fonctionnement des mangas traditionnellement, vous vous rendez compte que souvent les personnages parlent à eux-mêmes pour s'adresser au lecteur, mais c'est une forme de convention. Donc si vous voulez, ce n'est pas ici une maladresse, c'est une convention liée au manga, me semble-t-il. Et le générique, maintenant, va vous expliquer tout ce qui s'est produit. Et là, je vous demande d'être très, très attentif au générique, parce qu'on va le voir deux fois. On a ici une succession de dessins qui font penser à des dessins de type Inca, Maya. Je ne sais pas si vous avez vu, on peut penser à cela, hein, ce qu'on a retrouvé donc en Amérique du Sud. Alors, en première étape, regardez. Vous avez une princesse guerrière avec des ailes largement déployées. En fait, c'est une préfiguration de ce que va être Nausicaa. Regardez bien, en bas, vous avez le dragon qui est terrassé. On a une vision aussi qui peut faire penser à Saint-Michel terrassant le dragon, vous voyez, ou à l'Apocalypse. Deuxième élément, regardez, on a l'arche de Noé. Sauf qu'ici, l'arche de Noé est propulsée dans les airs. C'est curieux, hein? Donc il y a un mélange, je dirais, de toutes sortes d'éléments religieux, mythologiques et de création typiquement liée à Miyazaki. Regardez en haut, les poissons qui ressemblent d'ailleurs plus à des squelettes qu'autre chose, puisque le monde est entré en déréliction. Et là, maintenant, vous avez les êtres humains qui sont en train de fabriquer un monstre. Très certainement, ils sont en train de fabriquer une machine de guerre. Mais en même temps, peut-être une sorte de veau d'or. En fait, c'est la technologie. Cette technologie aboutit à la destruction. Regardez les bâtiments qui s'effondrent. De plus près, on voit cette gueule ouverte qui fait penser à celle d'un dragon, qui fait penser, comme je vous disais encore une fois, à l'Apocalypse. Et évidemment, tout ceci va aboutir à l'éveil d'armes supérieures encore, c'est-à-dire cette fois-ci les sept guerriers qui amènent l'anéantissement de la technologie. Et ce qui est quand même assez curieux, c'est que le tout semble assez serein, la musique est très douce, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc ici, on dit que la musique... elle est anempathique, c'est-à-dire qu'elle est en opposition avec l'image qui nous est proposée. Et maintenant, vous avez la suite de la guerre. Et si vous avez vu le début de Terminator 2, qui date de 1992, vous avez une dévastation atomique qui est présentée et qui correspond déjà un peu à ce que l'on voit là. Regardez d'ailleurs les êtres humains qui sont emportés dans les fleuves en dessous. On est presque dans l'image du Styx. Donc, en arrière-plan, le monde qui est totalement détruit. Et le fait que les guerriers s'éloignent nous montre maintenant le monde post-apocalyptique, avec la naissance des insectes que nous avons au début du film. Regardez ce que les insectes ont dans leur bec, des crânes. Vous voyez ? Alors maintenant, travelling droite, gauche, droite, et on nous amène ensuite sur les omus, avec ici plutôt les yeux rouges, et ensuite la pollution, et à nouveau la dévastation qui s'ensuit, et les gens qui cherchent leur secours dans quelque chose d'autre. Et c'est quelque chose que vous entendez que la musique s'enfle à ce moment-là avec des, comment dire, des cordes, des instruments avant. Et là, vous avez la venue du Messie, c'est donc Nausicaa. Et c'est pour ça que la musique était douce et anempathique, parce que maintenant elle va devenir empathique, puisqu'en surimpression, vous avez des nuages qui viennent sur Nausicaa. En d'autres termes, la musique était douce parce qu'il y a une nuance d'espoir. Cet espoir vient du ciel, en d'autres termes de la vallée du vent, en d'autres termes de Nausicaa. D'où la surimpression. L'impression de douceur et d'harmonie. Alors, vous voyez que Nausicaa apparaît toute petite. Union de l'être humain et de la nature, et a fortiori de Nausicaa avec la nature. Un plan plus rapproché sur elle. Et vous avez vu peut-être l'ombre qui est portée sur le sol, c'est tout à fait normal, c'est réaliste, mais en même temps ça signifie qu'elle va avoir un impact sur le monde dans lequel elle va atterrir. Maintenant nous sommes plus rapprochés d'elle, et nous la suivons, je dirais, en un plan d'accompagnement, avec par contraste le plan sur l'un des guerriers qui a été détruit, l'un des sept guerriers qui a été détruit, et dont on va essayer de faire ressusciter l'un d'entre eux à la fin du film pour créer à nouveau la guerre. Et elle passe dessus, donc elle domine cela à la, comment dire, à la mort, à l'extermination. Elle apporte, elle, au contraire, une mort. Et alors, ce qui donne en plus une impression de facilité, c'est pas seulement la musique, mais c'est aussi l'absence de son ambiance. C'est-à-dire que tout se passe comme si elle se propulsait sans aucun bruit, donc comme un être quasiment surnaturel. Regardez l'atterrissage, aucun bruit non plus. Et ça, c'est une volonté. Donc souvent, ce qui est intéressant dans un film, c'est pas seulement ce qu'on vous montre, mais c'est aussi ce qu'on ne vous montre pas. C'est pas seulement ce qu'on vous fait entendre, c'est aussi ce qu'on évite de vous faire entendre. Et là, par contre, un insert, sur une arme, donc on nous fait comprendre tout de suite que Nausicaa, qu'on n'a pas vu encore avec son visage, c'est quelqu'un qui sait maîtriser les armes. Donc c'est un élément qui fait d'elle une guerrière, une héroïne, mais aussi ce qui va faire sa faiblesse. On verra que les armes, elles s'en servent souvent pour, au contraire, détourner la guerre. Voilà. Alors, je vois l'heure, malheureusement, il faut qu'on passe à Linda, mais vous comprenez que le film dont je viens de vous montrer un tout petit extrait, c'est un film extrêmement complexe, qui nécessiterait une journée complète de formation. Moi, je vous ai donné quelques pistes, à vous de les creuser. Regardez, vous avez quand même pas mal d'extraits. Je vous conseille ensuite de les exploiter chez vous, et en particulier, je vous conseillerais de montrer aux élèves, évidemment, les extraits de Princesse Mononoke et de Ponyo pour apporter un petit complément à la vision de Nausicaa. Voilà.